Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Jean, n'y va pas, je t'en prie. Et si tu revenais pas?
Cette guerre, c'était vraiment l'enfer sur Terre.
On a décidé aujourd'hui de retourner voir deux metteurs en scène français qui font du fantastique et que l'on suit maintenant depuis quelques années. Alors tout d'abord, il y aura Fabrice Blin, réalisateur de La Chose derrière la porte, car oui, Fabrice Blin a signé son premier long métrage de fiction qui est disponible dans une superbe édition chez Extra Lucide Film. À ce titre, d'ailleurs, je remercie Karine Bach et Patrice Berry pour leur aide sur cette émission. Et donc, on vous conseille vivement cette Chose derrière la porte de Fabrice Blin. On va vous en dire plus d'ici quelques instants avec Fabrice Blin lui-même. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, on vous invitera à rencontrer un jeune réalisateur indépendant qui vient de signer un court-métrage visible sur YouTube qui s'appelle « Celle qui parlait aux ruines ». Très beau court-métrage, très esthétique, très réussi, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. On avait déjà reçu Kenny Bernard pour ses premiers courts-métrages, et nous on aime bien dans l'émission comme ça suivre les réalisateurs et pouvoir les accompagner tout au long de leur filmographie. On débute donc cette émission avec l'ami Fabrice Blin. Fabrice Blin, on le connaît bien, on l'avait reçu pour Mandragore, on l'avait reçu pour Super 8 Madness, et voilà maintenant qu'arrive la chose derrière la porte. La Chose derrière la porte, donc, qui est sortie chez Extra Lucide Film, qui est un film fantastique avec un pitch très simple, hein. C'est l'histoire d'une veuve qui a recours à la magie noire pour faire revenir son mari décédé dans les tranchées de la Grande Guerre. Alors bien sûr, le résultat escompté ne va pas être, comment dire, à la hauteur des espérances. Ce sont plutôt des sombres puissances qui vont se déchaîner. Pour rappel, La Chose derrière la porte de Fabrice Blin sera diffusée le mardi 7 janvier à 20h à la salle Saint-Gobain de Tourotte, donc à l'espace culturel de Tourotte. Et la projection aura lieu en présence du réalisateur Fabrice Blin et ce sera votre serviteur qui animera la soirée. On va pouvoir voir un film fantastique, plus qu'un film d'horreur d'ailleurs, un film fantastique dans une ambiance très singulière, très particulière, et un film avec un grand soin apporté au cadre, à la mise en scène, avec des acteurs très bons, parce que c'est un tout petit budget quand même. Alors certains ont gossé de voir Séverine Ferrer dans le rôle principal, hein, puisque c'est une ancienne de la télé, mais elle est très très bien dans le rôle, elle joue très bien, celui qu'elle perd à la guerre, c'est le David Doucan, un peu spécialiste des rôles de grand baraqué, là, qui a un rôle plus touchant, plus émouvant, et ce film presque muet d'ailleurs, hein, presque sans dialogue, c'est un vrai film fantastique, c'est un film poétique, c'est un film qui célèbre, comment dire, le lien entre l'homme et la nature et qui, à sa manière aussi, dénonce l'absurdité de ce que peut être la guerre, ce qui n'est pas, par les temps qui courent, un discours déconnant. Hein. Pour parler du film, pour faire mieux connaissance avec cette très bonne très bonne série B, je veux dire, très bon film fantastique français. Je vous propose tout de suite d'échanger avec Fabrice Blin. Donc Fabrice Blin, qui est le réalisateur de La Chose derrière la porte, disponible chez Extra Lucide Film. Fabrice Blin au micro de Culture Prohibée. Comment donc tu es passé au long métrage ?
En fait, le court métrage, c'est rarement un but en soi. Hein. Donc, on rêve tous, quand on fait des courts métrages, de faire un jour un long métrage. Ça aura pris quelques années pour moi. une ou deux décennies avant que j'arrive à concrétiser ça. C'est toujours compliqué, en fait. C'est toujours compliqué, surtout quand on fait du genre, qu'on ne fait pas forcément partie d'un réseau. Déjà bien établi, qu'on est un peu un franc-tireur, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ça faisait plusieurs années que j'essayais de monter des projets par les voies très officielles, hein, en allant chercher de l'argent auprès des chaînes télé comme Canal+ et tout. Puis à chaque fois, ça se cassait la figure au dernier moment, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons d'ailleurs. Mais enfin, ça, je suis pas forcément le plus apte à juger, mais c'était forcément frustrant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça devait être en 2017, avec Jean-Marc Toussaint, on s'est dit, bon, écoute, il y en a marre, on va s'autoproduire, on va essayer de faire un tout petit film qui tienne la route, qui soit en adéquation avec notre absence de moyens, parce que quand on s'autoproduit, ben, évidemment, on a très peu de moyens, et on va se lancer tout seul, en fait, hein, ou presque tout seul, en tout cas au départ, on était vraiment très, très, très peu nombreux, on va se lancer dans l'aventure du long métrage. Donc voilà un peu l'historique.
Et bien donc ce long métrage que l'on a pu voir et apprécier, hein, qui s'appelle donc La Chose derrière la porte, raconte l'histoire d'une jeune veuve qui a recours à la magie noire pour faire revenir son mari décédé dans les tranchées de la Grande Guerre. Comment cette idée de scénario t'est-elle venue ?
Bon, en fait, c'est des thématiques qui me passionnent depuis toujours, c'est-à-dire que ce soit la magie noire... tout ce qui est un peu cérémonie, vaudou ou autre. Là, c'est pas vraiment du vaudou, là, d'ailleurs, mais enfin, ça peut y ressembler. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très, très cinégénique, hein. Quasi hypnotique. D'ailleurs, j'ai une séquence dans le film, hein, que j'aime bien, en tout cas, enfin, c'est une... Donc, je suis plus satisfait du résultat. C'est là justement toute cette séquence où on voit le personnage d'Adèle qui façonne un peu une petite poupée à l'image de son mari décédé. C'était l'une des scènes que j'avais en tête depuis le début, en fait, quand je me suis lancé dans l'écriture. Donc, je dirais que voilà, c'était de toute façon là depuis longtemps. Il se trouve que ça s'est concrétisé dans cette histoire-là, mais même avec dans un autre contexte, je pense que j'aurais casé une histoire de cérémonie ou de magie noire à un moment ou à un autre. Et puis la deuxième partie de ta question, ben c'est en fait, tu parlais de la Grande Guerre. Oui, ben en fait, moi j'ai une fascination, alors pas une fascination morbide, hein, mais une espèce de dégoût profond on touche du doigt la terreur absolue pour moi quand on évoque la Première Guerre mondiale, qui est pour moi vraiment une boucherie sans nom. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale était une horreur, toutes les guerres, on va dire, hein, évidemment, mais 14-18, c'était très particulier quand même. C'était vraiment, on tuait les gens au kilo, pour rien, pour gagner un mètre de terrain, on tuait des milliers de personnes qui étaient fauchées à la mitrailleuse. Des gens souvent très jeunes, et au point qu'à la fin de la guerre, on s'est aperçu que il n'y avait même plus assez d'hommes pour que les femmes puissent trouver des hommes pour se marier, faire des enfants. Enfin, je veux dire, ça a été une saignée énorme. Alors, pas uniquement en France, d'ailleurs, hein, mais au niveau européen. C'est quelque chose je pense qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui au niveau des proportions que ça pouvait prendre, que ça a pu prendre en l'espace de 4 ans. Donc voilà, moi, mettre ça dans un contexte comme ça, pour moi, c'était doublement un film horrifique.
C'est aussi la première guerre, effectivement, où il y a une telle industrialisation de la mise à mort, on peut dire ça comme ça.
Exactement, exactement. Ah ouais. Guerre moderne.
Oui, ouais, on va dire ça comme ça, même si le mot moderne peut être étonnant, mais bon. Alors, beaucoup, alors, de par le titre, hein, La chose derrière la porte, évidemment, et puis il y a les zombies fous le chien qui arrivent dans le film. Alors, beaucoup voient des références à Lovecraft, hein, dans ton film, il y en a, évidemment. Moi, j'en vois plein d'autres, on en parlera aussi après, mais et toi, personnellement, quelles étaient tes principales références lorsque tu étais attelé à son écriture et à sa réalisation?
Bah, Lovecraft, c'est évident, hein, d'où le petit clin d'œil du titre, qui m'a d'ailleurs valu parfois des petits quiproquos, parce que pas mal de personnes, en lisant rapidement ou en regardant des petits posts sur Internet, pensaient que c'est une adaptation de Lovecraft, et pas du tout. Hein, c'est une allusion à La chose sur le seuil. Et puis voilà, avec un petit côté, un titre un peu littéraire, quoi. C'était ça que j'avais envie de faire, un petit côté suranné, un petit côté littéraire. Qui était vraiment volontaire, c'est-à-dire comme c'est un film d'époque, hein, puisqu'il se passe à la fin de la guerre 14, j'avais envie d'être assez cohérent et de pas avoir un titre forcément hyper punchy en un mot comme ça se fait beaucoup, avoir quelque chose d'un peu long, un peu poétique, un peu naïf aussi, hein, mais que j'assume, et qui, oui, donc évoquait d'une part Lovecraft, et puis mes autres références étaient plus françaises, hein, plus franco-françaises, avec quelque chose qui m'a toujours plu en tant que lecteur, c'est ce qu'on, je crois que ça s'appelle, enfin ça a été appelé ou nommé le fantastique rural. Alors ça n'a absolument rien de péjoratif, c'est juste que c'est des contes fantastiques en gros qui se passent à la campagne pour la plupart, parce que ben quand on remonte au début du siècle précédent, vers 1900, on était vraiment encore très ancré dans la magie noire. Certes, les gens allaient à la fois à l'église, hein, en Europe, mais aussi fricoter quand ils le pouvaient avec des rebouteux, avec un peu avec la magie, pas forcément la magie noire, hein, mais il y avait toujours ce côté quand même un peu espèce de petite touche comme ça de magie ancestrale dont on avait du mal à se débarrasser. Donc je voulais un peu tripatouiller là-dedans, hein, ça me plaisait bien. Et puis voilà, j'avais été marqué par, comme je disais, par quelques lectures, dont notamment les romans de Claude Seignolle, hein, qui est un monsieur qui a vécu jusqu'à plus de 100 ans, je crois, qui est mort il y a quelques années, et qui était justement le pape, entre guillemets, du fantastique rural français. Mais alors c'était très axé plutôt sur le diable, sur les choses comme ça. Moi, mon film, il n'y a pas de notion de diable, hein. C'est vraiment pas ça, on est plus dans quelque chose de lié à la terre, on en reparlera peut-être tout à l'heure si tu veux, mais à la nature. Et puis sinon, l'autre référence aussi, parce que ça, alors pour le coup, il y avait aussi le cadre de la guerre 14, c'était La Vouivre, le roman de Marcel Aimé, qui a été adapté d'ailleurs dans les années 80 par George Wilson, le père de Lambert Wilson, avec Lambert Wilson dans le rôle principal. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film très, très rare, très précieux, c'est un film que j'aime beaucoup pour ce qu'il est, malgré ses défauts. Parce que ben voilà, le fantastique pendant la guerre 14, y en a très très peu, hein, donc voilà, le mien c'est en tout cas pas le premier, mais je dirais qu'il est un peu dans la lignée de La Vouivre quelque part, voilà.
Alors c'est vrai qu'on oublie qu'il y avait aussi une grande part de mysticisme en France. Les rebouteux, ça existe toujours d'ailleurs, hein, on en a toujours à la campagne, et La Vouivre, oui, moi je me rappelle de ce film qui m'avait marqué aussi, avec cette apparition de cette vouivre, très belle femme là, qui sort des marais comme ça,
tout à fait,
c'était très, très impressionnant, effectivement, maintenant que tu le dis, on trace des liens avec ton film, effectivement.
Donc, oui, enfin, tu vois, c'était presque involontaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais plus au roman quand j'écrivais qu'au film. Puis en tournant, j'avais des références visuelles qui, finalement, même parfois, je donnais des références à l'équipe, qui étaient des captures d'écran de La Vouivre. Tu vois, c'était pour les costumes, pour les certains décors. Donc oui, il y a vraiment un lien assez direct, hein, entre les deux films.
Oui, c'est le côté organique, en fait.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis vraiment de cette apparition comme ça du fantastique en pleine campagne française pendant la Première Guerre mondiale, c'est vraiment un cadre très particulier, hein. On est quand même dans une fenêtre étroite là de narration, mais il y a beaucoup de points communs en tout cas de ce point de vue-là, quoi.
Et puis bon, évidemment, j'en parlais tout à l'heure en introduction, oui. Ton court Mandragore, qui avait été tourné d'ailleurs en partie dans l'Oise, pas très loin de notre studio. Ouais. Tu expliques, alors, dans les bonus, alors les bonus sont très fournis, hein, sur l'édition d'Extra Lucide Film, là, de La Chose derrière la porte, il y a plus de 2 heures de bonus. Mais tu expliques que ce n'est pas une version longue de ton court, évidemment, mais par contre, on retrouve cet effet spécial si percutant qu'il y avait à la fin de Mandragore, on le retrouve également dans La Chose derrière la porte.
Oui, alors... On va dire, j'ai des petites obsessions pour le végétal d'une part, puisque vraiment c'est le point commun avec le sein d'espèce de comme ça de puissance, je dirais, de la nature qui domine, qui finit par dominer l'homme, hein, pour diverses raisons d'ailleurs, hein, c'est pas les mêmes forcément dans Mandragore et dans la chose, mais il y a toujours comme ça cette présence de ce rapport de l'homme à la nature, qui a un rapport de force bien souvent. Et puis la mutation des corps, moi c'est, je veux dire, adolescent, j'ai découvert les films de, entre autres, hein, mais de David Cronenberg, et forcément ça m'a marqué. Alors c'est pas du tout la même approche, dans le sens où j'ai absolument pas, enfin d'abord je me compare pas à David Cronenberg, mais je veux dire, en tant que spectateur, voilà ce qui m'a marqué. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait la même approche, elle est beaucoup moins intellectuelle, probablement la mienne. Mais et puis en plus, surtout, comme je le disais, elle est plus tournée vers le rapport homme-nature. Mais ce côté organico-végétal, là, comme ça, me fascine, en fait. Je sais pas trop d'où ça vient. Il y a des dessins de Casa aussi, quand j'étais ado, que j'ai vu, qui étaient un peu... ça peut être plein de choses. C'est toujours difficile, hein, de dire d'où proviennent nos idées ou nos obsessions. Je trouve que graphiquement, d'abord, c'est intéressant. Et puis thématiquement, ça me parle, quoi. Donc, j'avais envie de retourner là-dedans. Et c'est sûr que les films se terminent quasiment, même si les contextes sont très différents, de la même façon. Donc, il faudrait peut-être que j'arrête, que je passe à autre chose.
Bon, après, un réalisateur a des obsessions, ça me paraît tout à fait normal. Oui. Tu avais travaillé avec Casa, d'ailleurs, sur Mandragore, si ma mémoire est bonne.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je le connaissais par notre ami commun qui était René Laloux. Hein, et Casa m'avait fait des petits dessins préparatoires, très beaux d'ailleurs, enfin, plus des esquisses, hein, en noir et blanc, mais quand même, sur la base de mon scénario. Moi, j'étais hyper fier à l'époque. Enfin, c'était un rêve qui se réalisait. Hein. Mais on est resté très en contact. Il a d'ailleurs relu, il a fait un peu le script doctor sur La chose derrière la porte. Il m'avait suggéré une ou deux idées dont j'ai tenu compte. Et puis voilà, enfin, il est toujours bienveillant et toujours un peu comme ça. Il est très 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 spectateur aussi, Casa. Hein. C'est un bon spectateur. Il aime regarder, découvrir, suivre des gens. Donc ouais, c'est un petit peu le parrain du film, quoi.
Oh bah, c'est un chouette parrain. Moi aussi, j'ai grandi avec les BD de Casa. Hein. C'est que t'es,
voilà.
C'est clair. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé sur ton film, qu'on aime bien dans l'émission. C'est quelqu'un qui est déjà venu nous animer des émissions avec nous, des émissions autour des SFX et tout ça, qui est une vraie légende, en fait, des SFX dans l'Hexagone. C'est David Scherer. David Scherer, qui est un type adorable, qui est toujours dispo, qui travaille sur de la grosse prod, mais qui va aussi travailler quasi gratos, voire gratos, sur des toutes petites prods. Un véritable passionné. Comment s'est passé ton travail avec David Scherer sur ce film ?
Bah déjà, David, on se connaissait depuis longtemps, hein, puisqu'il avait, il n'avait pas vraiment fait des effets spéciaux, si un petit peu de maquillage, puis il nous avait prêté un bras coupé, je crois, sur Monsieur Méchant, en 2007. Donc tu vois, ça remonte un peu. Et déjà, à l'époque, je le connaissais pas, mais il avait tout de suite été super réceptif, enfin vraiment tout très motivé. Enfin, c'est incroyable, c'est une vraie machine, c'est un vrai passionné. David, c'est une vraie locomotive, quoi. Tu vois, il emmène tout le monde avec lui, puis il est toujours partant quand tu lui proposes des idées, il rebondit, enfin voilà. Et puis surtout, c'est le roi du système D. Alors, je dis pas que, je pense que c'est vrai pour tous les maquilleurs, tu vois, les spécialistes des SFX, il faut savoir faire peu, c'est l'inverse, il faut savoir faire beaucoup avec peu. Mais alors lui, il faut dire que sur le tournage de La chose derrière la porte, il avait vraiment peu, le pauvre, et il nous a bluffé, quoi. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé, vu que le film a pris du temps à se monter et tout, en amont, des années avant, on parlait déjà des effets, on avait déjà réfléchi à des tas de trucs, comme on avait des effets un peu similaires déjà dans Mandragore, qui avait été tourné quelques années avant, ben, on savait déjà où on mettait les pieds, et lui surtout. Mais bon, ce que je raconte toujours, c'est que sur le tournage de La chose derrière la porte, il y avait des moments où il y avait plus rien, il n'y avait plus de matos. Et je sais qu'il nous avait fait un cordon ombilical qui relie une cosse à la terre, hein, dans l'histoire. Il l'a fabriqué avec des bouts de PQ. Donc si tu veux, je pense pas que les gens, d'abord les gens s'en fichent, mais bon, je veux dire, en tout cas quand ils voient le film, on dirait pas des bouts de PQ. Il est bluffant. C'est-à-dire qu'il fait de l'or avec. Avec des bouts de PQ.
C'est un alchimiste des effets spéciaux, on va dire ça comme ça.
Il a un côté. Ah ben c'est entre l'alchimiste et le professeur Tournesol, hein, je veux dire, c'est un personnage très particulier. C'est un personnage déjà, à part entière, hein, on pourrait faire un film sur lui. Et puis oui, comme tu le disais, ben, il vit, je pense, hein, essentiellement de grosses prods qu'il arrive à faire, et tant mieux, hein, parce que depuis les années, enfin depuis qu'il fait ça fait très très longtemps, il a réussi à se faire un nom. tout en étant très indépendant lui-même. Hein. Il n'a pas un gros studio énorme. Il travaille avec des gens qui l'aident, mais c'est toujours en petite équipe. Et ben, il a réussi à se faire un nom. Il est reconnu un peu. Je pense qu'il gagne correctement sa vie quand il travaille à la télé ou autre. Et puis, comme tu le disais, ben surtout, il a le fair play de rendre service à tous les réalisateurs de courts-métrages ou de longs-métrages fauchés. Il dit jamais non, pratiquement, David. C'est fou, quoi. Et à chaque fois, c'est génial, en plus. Et en plus, il progresse. C'est-à-dire, moi, j'ai vu vraiment des choses qu'il fait aujourd'hui qu'il n'aurait pas forcément tenté il y a quelques années. Et vraiment, il est bluffant. Hein. Il apprend tout le temps, il rebondit, puis il est rigolo.
C'est ce que j'allais dire. On le dit pas assez, mais il est adorable en plus. Donc
voilà. Super cool. Ouais. Après, il faudrait quand même qu'il prenne soin de sa santé sur les tournages, parce que il a failli nous faire un malaise, parce qu'en fait, il ne fait que travailler, il mange pas. Donc, David, attention, il faut aussi surveiller. Mais voilà, il nous a fait une ou deux frayeurs, mais même déjà son mandragore comme ça, parce qu'il est tellement passionné qu'il en oublie qu'il est un être humain qu'il faut nourrir.
Oui, on va protéger notre trésor national du cinéma bis français, parce qu'il ne faut pas qu'on le perde, qu'on l'aime beaucoup,
non,
David. Alors, donc. Vous écoutez Culture Prohibée. Je précise, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, tu as parlé de Monsieur Méchant, j'ai parlé de Mandragore. On peut les voir, hein, ils sont en bonus sur le Blu-ray édité
Absolument,
par Extra Lucide Film, qui est plein de bonus, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, de la chose derrière la porte. Ah oui, là, tu as une belle édition.
Ouais, c'est super. Et dès le départ, ils m'ont dit on veut faire un super truc, on va faire quelque chose de très complet. On aime beaucoup le film, donc moi ça m'a vraiment, tu vois, enfin, j'étais très flatté déjà, hein, parce que tu vois, ça reste un petit film, hein, qui n'avait pas eu une exploitation en salle ni rien. Donc ils l'ont vu en festival, ils ont beaucoup aimé tous les deux. Quand je dis ils, c'est Karine et Patrice, hein, d'Extra Lucide. Et franchement, ils m'ont fait un petit bijou de Blu-ray collector. Ils ne pouvaient pas rêver mieux. Donc voilà, je suis ravi.
On en profite pour les remercier, puis pour saluer Karine Bach et Patrice Véry, qui eux aussi sont des passionnés de longue date du cinéma de genre en France.
Et ça, c'est sûr.
On se compte sur les doigts d'une main, donc voilà, on peut les remercier.
Oui, c'est des vrais de vrais, c'est des purs et durs.
Et alors, dans le film, donc la chose derrière la porte, je reviens au film, moi je vois aussi évidemment les cocons et la paranoïa d'Invasion of the Body Snatchers, on va dire les deux premières versions. Je vois aussi l'esthétique un peu abandonnée de Nacho Cerda. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est des choses que tu avais en tête, ou est-ce que c'est totalement inconscient ?
Oui. Non. C'est toujours pareil. Je les ai en tête, mais le but n'était pas de faire un remake cheap des films que tu cites. Tu vois, c'est juste que tu as des images qui te restent gravées comme ça, que tu as découvert en tant que spectateur. Tu vois, j'ai un souvenir assez confus d'Abandonner au niveau de la narration, de l'histoire, même si la fin, je me souviens bien. Mais par contre, l'apparition des zombies, en tout cas des deux personnages principaux qu'on voit à un moment apparaître en zombies, mais qui sont d'ailleurs très fous de chien, hein. Ils ont un côté, zombies, on dirait qu'ils sont directement sortis d'un film de Lucio Fulci. Hein. Ils marchent lentement, ils sont assez amorphes. Ça m'avait terrifié. Enfin, vraiment, ça m'avait vraiment marqué. Donc, oui, forcément, quand on discutait avec David Scherrer, hein, et quand vous discutez du look des zombies, je disais, bah, c'est ça que je veux. Tu vois, je veux vraiment qu'ils soient assez figés, assez lents, des espèces de silhouettes comme ça. Presque fantomatique, hein. C'est entre le fantôme et le zombie quelque part, hein. Même si bon, ils sont en dur, hein. C'est pas des fantômes, mais je veux dire, ils ont un côté apparition, quoi. Et c'était très marquant dans le film de Nacho Cerda, ça. Et puis évidemment, bah, les cocons, l'Écosse, ça, moi quand j'ai découvert l'invasion des profanateurs, c'était, je crois que c'était le remake des années 70 que j'ai vu d'abord, avant de voir le film original des années 50 en noir et blanc. Mais ça m'a foutu une baffe, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, mais j'avais jamais vu ça, quoi. C'était terrifiant, et en même temps terrifiant, pas vraiment, enfin c'est pas un truc qui te fait ça te fait pas hurler de peur, mais c'est tellement dérangeant, tellement pour le coup organique, justement, et enfin ne cherchons pas plus loin, hein, voilà, et organico-végétal, comme je le disais tout à l'heure. Donc certainement que ça a été la découverte de Body Snatchers, là, c'était pour moi vraiment une révélation qui m'a marqué, même en tant que réalisateur aujourd'hui, probablement la révélation principale même, mais ça m'avait vraiment dérangé, et je voulais toucher du doigt ça. C'est-à-dire, je me dis, mais il y a vraiment un truc encore à faire, parce que finalement on voit assez peu ça, ce côté végétal qui envahit comme ça les corps humains. Et voilà, donc le côté paranoïaque peut-être moins, parce que c'est quand même des films que tu cites, enfin, notamment les Body Snatchers sont des films quand même politiques, hein. Beaucoup, hein, puisqu'il y a quand même, que ce soit celui des années 50 ou des années 70, il y a toujours une espèce de on remplace l'humain par une autre catégorie d'être vivant. Moi, je ne suis pas trop là-dedans, parce que je suis plus, je dirais, dans un discours un peu écolo, hein, puisque pour moi, c'est quand même le retour de la nature à chaque fois qu'il reprend ses droits. Mais voilà, bien sûr que les images étaient là dans ma tête gravées. Et puis, on ressort toujours un peu, tu vois, des choses en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, des choses qu'on a vues et qui nous ont marquées. Donc, c'est clair, j'assume complètement ces références, oui.
D'ailleurs, les deux, Invasion of the Body Snatchers, les deux premières versions sont exceptionnelles, toutes les deux, pour des raisons différentes. Et effectivement, oui. Je les ai découvertes dans le même ordre que toi. Et difficile, le film nous poursuit, hein, le dernier plan avec Donald Sutherland poursuit le spectateur longtemps après sa vision. Hein.
C'est incroyable. Mais en même temps, c'est des films assez lents, assez froids. Hein. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui au-delà même des effets spéciaux, hein, qui m'a marqué assez profondément, quoi.
Et alors, la chose derrière la porte voit son générique orné d'un superbe travail graphique de Grégory Lay. Alors, Grégory Lay, moi, j'ai travaillé avec dans l'édition, c'est un type qui a un talent incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre collaboration, votre rencontre et votre collaboration sur ce film ? Parce que le générique est presque un film à lui tout seul, quoi. Voilà.
Et puis bon, il n'est pas que dans le générique, c'est aussi lui qui a dessiné les pages du grimoire qu'on voit, puisque à un moment, le personnage d'Adèle prend possession comme ça d'un vieux grimoire qui était enterré au pied d'un arbre, et elle feuillette les pages. Il nous a fait quand tu prends les pages sur le tournage, tu vois, même pour les comédiens, pour Cyril Ferre, c'était incroyable, parce qu'elle avait l'impression de vraiment feuilleter un grimoire. Grégory avait patiné un peu, tu vois, les pages avec du café, je crois. C'était un peu, tu avais vraiment l'impression que c'était un bouquin qui avait traversé le temps, quoi. Donc il a fait un boulot incroyable. Et puis alors, en plus, bon, de toute façon, c'est un peu comme David Scherrer. Moi, Grégory, je le connais depuis vraiment longtemps, et puis il fait partie de ma petite famille de cinéma, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la question ne se pose pas, je refais appel à lui, enfin, s'il est dispo, tu vois. Donc pareil, sur la chose derrière la porte, il a commencé à faire des dessins peut-être 3 ans avant le tournage. On commençait à réfléchir à au look un peu des clones, hein, parce que ce sont des clones, c'est pas des zombies vraiment, hein, mais des clones du mari de Tadelle, des clones de Jean. Et il m'a fait toute une série de dessins hallucinants, tu vois. Et quand tu vois ça, en plus, ça te donne tellement la pêche, parce que d'abord, il met sur une feuille ce que tu as dans la tête, c'est-à-dire en fonction des mots que tu as écrits. Lui, il s'est inspiré de certains paragraphes tirés de descriptions, si tu veux, des personnages tirés du scénario. Mais en plus, ça te nourrit, quoi. C'est-à-dire que il amène ses idées à lui, il amène encore plus que ce que toi t'avais en tête, et t'as qu'une envie à partir du moment où il a fait ses dessins. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que tous les gens qui ont travaillé avec lui ressentent la même chose. C'est que t'as envie maintenant de rendre hommage à ses dessins et de les mettre à l'écran, et voilà, et d'en faire vraiment, d'en faire un film, quoi. Donc, c'est à la fois comment dire, c'est le bras qui dessine qui illustre mes pensées, on va dire, hein. Mais c'est aussi une vraie source d'inspiration de par son travail, quoi. Et puis encore une fois, là aussi, c'est un mec adorable, quoi. Donc super, Greg. Moi, le travail de Greg depuis, c'était depuis Mandragore.
Il y a aussi un côté, moi, je trouve. Du coup, ça donne un petit côté Swamp Thing, créature du marais. Les dessins de Bernie Wrightson, lui, c'est pareil. Où il y a un côté très organique que je retrouve un peu dans ton film. Alors, comme je sais que t'es branché tout ça, est-ce que c'est là aussi c'est volontaire de ta part ou pas?
Bah oui, en fait, tu me connais bien. En fait, l'une des références que j'ai envoyées à Greg dès le départ, c'était un dessin de la créature du marais, du Swamp Thing. En noir et blanc, il y en a plein, il en a fait tellement, mais je veux dire, il y en avait un que j'aimais particulièrement. Et je disais à Greg, voilà, c'est un peu comme ça que j'aimerais que soit le clone. On savait déjà depuis le départ que c'est David Doucan qui allait interpréter, donc on connaissait un peu la masse corporelle, tu vois, enfin, le côté musculeux du personnage. Alors, le Swamp Thing est encore plus énorme, costaud, donc il fallait faire un personnage un peu plus fin, quoi. Mais quand même, ça a servi de référence. Et puis même dans le trait, c'est-à-dire que Greg, comme tu le dis, sait tout faire, mais il a une vraie, je trouve qu'il a une vraie appétence pour la BD. Et tu vois, il a un vrai trait de BD, je trouve. C'est-à-dire qu'il est souvent dans le semi-réalisme, ce que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire que les visages sont pas forcément hyper réalistes, mais on a des proportions qui sont réalistes. On a des mises en place des personnages dans les décors qui sont tout à fait réalistes. On n'est pas non plus dans quelque chose de cartoonesque, hein. Même que je suis sûr qu'il sait faire ça aussi. Donc voilà, bien sûr qu'on s'est inspiré de la BD et notamment de Swamp Thing, qui est une des références de créatures végétales que j'adore.
Ah, puis tout à l'heure, on parle un peu de dessin, de traits. Je dirais qu'il a même un côté comics, moi, notre ami,
oui,
notre ami Greg. Toi, tu as tâté de l'animation, alors je parle même pas de la stop motion, là je parle d'animation à base de dessin. Tu t'es fait remarquer avec Lobotoman, on peut en voir des extraits dans le Blu-ray. Dans La chose derrière la porte, là, est-ce que tu n'as pas été tenté, surtout quand je vois le travail de Greg, là, par un prologue qui aurait été en animation, parce qu'il y a un prologue au film, on n'en parle pas, on ne va pas tout dévoiler à nos auditrices et auditeurs, mais il y a un prologue, tu sais, qui aurait pu être, du coup, le générique aurait pu être dans la continuité du prologue, enfin voilà, est-ce que tu n'as pas été tenté par ça?
Mais je vais te faire une double réponse à ce qui concerne le prologue. Déjà, d'une part, pourquoi pas, mais ça aurait été compliqué, cette animation, c'est très long. Ça coûte cher si on veut que ça soit bien. Je pense qu'on n'avait vraiment pas les moyens. Encore une fois, c'est un tout petit film, tu vois. Donc, je te cache pas aussi que là, je parle pas du prologue, mais c'est le générique en fait, hein, qui est dessiné comme ça qui est illustré par des dessins. Ça a été aussi un moyen de combler certains vides, parce que quand on a fini le film, la première partie du tournage, on s'est aperçu qu'on est arrivé à un film d'une heure, hein, maxi. Donc c'était un peu léger pour un long métrage. Donc on a décidé, on m'a surtout poussé de la production à écrire un prologue. Et puis en plus, je trouve que le prologue se suffisait pas forcément à lui-même. Et j'ai voulu avec Greg comme ça compléter l'histoire en donnant des pistes, hein, qui sont dans les dessins qu'on voit pendant le générique. C'est-à-dire que le dessin du générique sont la prolongation du prologue d'une certaine manière. Donc ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je pense que voilà, ça apporte en tout cas un côté graphique. Alors oui, si on a eu plein d'argent, ça aurait carrément bougé, j'aurais adoré, hein, tu vois. Après, ça aurait peut-être donné une tonalité un peu trop creepshow. J'adore hein, creepshow, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire avec ce film-là, tu vois. On n'est pas non plus dans le comics, on n'est pas dans le... C'est quand même un film, la chose, qui est assez sérieux, qui est plus inspiré d'un univers comme ça, plus littéraire, plus classique. Donc, je sais pas si j'aurais forcément opté pour l'animation, mais pour un autre projet, ça me tenterait bien, évidemment, de mélanger les deux. J'adorerais. Alors, par contre, pour avoir un peu tâté d'animation, comme tu le dis, alors moi, je suis pas animateur, hein, j'ai toujours été réalisateur. Je dessine un peu, mais pas bien. J'ai toujours travaillé avec des équipes, hein. Mais je connais bien ce milieu-là. J'ai travaillé même dans la production pendant quelques années. Donc je sais comment on fait ça, surtout en 2D. Et j'ai gardé de l'animation, enfin mon approche de l'animation professionnelle. Vraiment deux choses importantes, c'est vraiment la rigueur et la précision. C'est-à-dire que en animation, tout ce que tu tournes, tu vas le garder en gros, parce que c'est pas comme en prise de vue réelle où tu tournes et puis tu sais qu'au montage il y a des choses qui vont. Tu peux pas en animation, ça coûte trop cher. Tout est précis. En fait, tout est fait. Le film est quasiment fait, storyboardé en entier. Vraiment ce qu'on appelle même les layouts, qui sont des espèces de planches de storyboard hyper détaillées pour chaque plan. Et en gros, puisque tu sais que tu vas sous-traiter en fait à d'autres personnes en animation, donc tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc tout est précis, tout est préparé. Et c'est un peu obsessionnel, mais hein. Il y a un côté très, il y a pas tellement de place au, il y a pas vraiment de liberté. Hein. Les animateurs, elle est très restreinte la liberté des animateurs. Et je dirais que j'ai un peu gardé ça et que je suis un peu comme ça moi sur un tournage. Je sais exactement ce que je veux. J'arrive sur le tournage hyper préparé. Et c'est, ça peut être un peu chiant parce que il faut quand même garder l'esprit ouvert et savoir s'adapter à la réalité des lieux et des choses. Hein, mais c'est un avantage, c'est que t'es très efficace quand t'arrives sur le tournage, surtout quand t'as pas beaucoup de temps pour tourner. Vraiment, je storyboard les séquences qui nécessitent des storyboards. En fait, le storyboard, si je pouvais, je storyboarderais tout. Mais si tu veux, c'est un vrai luxe, là aussi. Mais en fait, on l'utilise surtout pour tout ce qui est séquences FFX, hein, donc effets spéciaux de maquillage ou de voilà, qui sont réalisés en direct. Donc là, en l'occurrence, par David Scherrer, ou VFX. Il y a quelques plans en VFX, c'est-à-dire effets spéciaux numériques, hein, réalisés par ordinateur. Là, en fait, tu as besoin de communiquer avec des équipes, puisqu'en fait, tu dois montrer à tout le monde ce que tu as en tête et comment ça va se mettre en place. Pour ces plans à effets spéciaux, on se rapproche du travail en animation, c'est-à-dire qu'on a vraiment un travail où tu as besoin d'être hyper clair à toutes les étapes. Chaque plan doit être super détaillé pour que tout le monde parle de la même chose, en gros, hein, et qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de malentendu ou de temps perdu. Parce qu'en plus, voilà, surtout pour les VFX, les effets spéciaux numériques, ça coûte cher. Nous, on a réussi à avoir des plans, hein, grâce à Jean-Marc Toussaint d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas l'argent, donc on s'est arrangé, si tu veux, comme souvent sur les films qui n'ont pas de budget. Mais malgré tout, on a essayé d'être très professionnel, c'est-à-dire que tu vois, on a donné à l'équipe, en l'occurrence c'était Trimaran, hein, la société de production 3D Trimaran, si tu veux, un storyboard hyper détaillé de ce qu'il fallait. Alors c'est notamment une scène où on voit des biplans, il y a un moment tu vois Adèle qui est dans sa ferme et au-dessus d'elle passent deux biplans qui se tirent dessus, un Allemand et un Français, et le Français s'est écrasé un petit peu plus loin derrière un mur. Moi, j'avais besoin de cette scène pour poser un décor, pour planter un décor. Elle était vraiment importante pour moi. C'était pas juste de l'esbrouf. C'était pour montrer que le front était pas loin, que la guerre était présente, etc. Et qu'en même temps, elle était assez habituée, parce que tout ce qu'elle fait en regardant ça, elle se signe, elle fait un signe de croix. Elle peut rien faire, quoi. Ça fait partie de son quotidien de voir des combats plus ou moins proches de chez elle. Mais donc, pour revenir au storyboard, c'est ces séquences-là qu'on a storyboardées uniquement. Moi, j'avais commencé à tout storyboarder, mais au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais dans ma tête, par contre, je sais très bien ce que je fais, c'est-à-dire que je me fais parfois des petits crobards, des petits trucs. Et il arrive aussi, pour compléter ma réponse, que ça, on l'a fait avec Jean-Marc, pour des certaines séquences un peu précises où vraiment j'avais voulu des cadres bien spécifiques qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des séquences à effets spéciaux, mais ponctuellement, ça m'arrivait de faire avec Jean-Marc des petits storyboards, mais photographiés. C'est-à-dire qu'en gros, on allait, je me rappelle d'une scène dans les champs, là, on allait tous les deux avant le tournage le matin et on se photographiait. Tu vois, je prenais la posture, enfin l'endroit exact et la position que je voulais pour mon comédien et la valeur de cadre, etc. Et ce qui nous permettait après de discuter avec le chef-op. Et ça, c'est un vrai gain de temps. C'est-à-dire que on a pas le luxe de tout storyboarder, mais pour certains trucs qui étaient un peu difficiles à expliquer avec des mots. L'image, c'est évidemment toujours plus facile, quoi. Puis bon, on parle d'image, hein, on parle de cinéma quand même, donc c'est toujours mieux, hein, de pouvoir discuter autour d'un visuel, quoi. Bon, voilà, ma réponse, j'espère qu'elle te satisfait, mais c'est un sujet très important, ça, très intéressant, ouais.
Écoutez Fabrice Blin, réalisateur de La Chose derrière la porte, disponible chez Extra Lucide Film, au micro de Culture Prohibée. La Chose derrière la porte, qui est donc là, disponible chez Extra Lucide Film, tu fais le choix d'un rythme qui est assez contemplatif, qui est assez lancinant, le rythme, pour donner un film, qui donne un film assez contemplatif. Alors moi, j'apprécie beaucoup. Et je trouve que c'est un rythme qui se rapproche du travail. Alors, je ne suis pas forcément un gros fan de la Elevated Horror, comme on dit aujourd'hui, de ça, mais j'avais bien aimé The Witch, par exemple, de Robert Eggers. Et je trouve qu'on est dans cette esthétique-là, un peu une esthétique. On est dans quelque chose où le spectateur, il doit s'investir dans le film et puis être un peu nimbé, comme ça, de l'ambiance du film.
Ouais, tout à fait. Je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, ça demande un peu un effort au spectateur aussi souvent, c'est-à-dire que ça demande un lâcher prise, quelque chose qui est difficile à avoir dans une société où on vit à 2000 à l'heure, où on regarde les films sur des iPhones ou en faisant autre chose. Donc, c'est pour ça que quand le film est quand même projeté en salle ou que moi les projections que j'ai pu faire du film. C'est vraiment plus satisfaisant parce que tu dis, bon voilà, les gens sont un peu piégés, c'est comme ça, hein, c'est le principe d'être dans une salle, hein, t'es dans le noir, quasiment en état d'hypnose devant un écran géant, enfin géant, en tout cas beaucoup plus grand que celui de ton âge. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ces films-là. Donc, alors, comme je disais, d'une part, ça demande un effort, mais en même temps, je dirais que moi, il y a deux raisons pour lesquelles le film est comme ça. C'est-à-dire que d'une part, j'aime ça, parce que moi, j'ai été élevé au cinéma des années 80, bien sûr, mais aussi pendant les années 80, je regardais beaucoup de films des années 60, 70 surtout. Et le cinéma des années 70, même le cinéma d'action, souvent, est assez contemplatif. Il est assez lent, c'est pas du tout le rythme d'aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ça crée une ambiance, ça crée tout de suite quelque chose d'immersif. Alors, encore une fois, ça demande un peu un effort, surtout aujourd'hui, mais je pense que c'est pour moi, c'est assez fascinant en tant que spectateur déjà de rentrer dans un film qui crée une ambiance, même si elle est lente. C'est valable même aussi dans l'animation. Je pense à Miyazaki. Alors, bien sûr, je ne compare absolument pas à Miyazaki, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve chez lui, dans son cinéma, quelque chose qui me parle parce que justement, il n'y a pas d'hystérie. Et quand ça doit s'agiter, ça s'agite. Quand ça doit bouger, quand il doit y avoir de l'action, il y en a, mais pas tout le temps. Et voilà, donc moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ça. Maintenant, je sais que des gens n'aiment pas et chacun ses goûts, je comprends tout à fait. Et d'autre part, pour finir, c'est aussi par manque de choix. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as peu de temps, parce qu'en gros, on a fait le tournage, donc on a tourné en Bourgogne en mai 2019, on a eu 3 semaines de tournage. C'est très très court, 3 semaines. Quand tu as des séquences à effets spéciaux sur le plateau, donc effets fixes, quand tu as beaucoup de scènes de nuit et avec des éclairages un petit peu sophistiqués quand même, hein, c'est pas du fan footage, on n'est pas caméra à l'épaule et tout, on a quand même une mise en place. On a eu vraiment très très peu de temps. Donc, je veux dire, c'est aussi ça qui fait que tu peux pas te permettre d'avoir 1500 plans dans le film. Tu vois, donc tu poses des plans assez lents que tu essaies de dynamiser un peu au montage, hein. C'est ce que Sébastien de Sainte-Croix, là, notre monteur, a réussi à faire, je trouve. En tout cas, par moment, on a vraiment réussi à obtenir plus que ce qu'on avait au tournage, parce qu'il arrive quand même à redécouper tout ça et tout. Mais finalement, quand je lui ai amené les rushs, tu vois, au montage, je pense qu'il y a toujours une frustration de la part du monteur, parce qu'il se dit, je vais pas avoir 1000 possibilités. Parce que finalement, au tournage, on n'a pas tourné sous tous les angles comme ça se fait quand on a des moyens et du temps. Là, parfois, pour un plan, t'avais pas qu'une seule prise, mais t'avais peut-être 3 prises sous un seul axe, et il n'y avait pas de choix. Donc moi, si j'avais plus de temps, j'aurais peut-être fait 3-4 axes différents ou moins 3 axes différents. Parfois, je pouvais pas. Donc ça donne aussi ce côté, tu vois, un peu lent parfois, parce que tu dois assumer le plan dans sa durée, dans sa continuité, dans sa longueur, qui est hyper frustrant, même pour moi, au montage. Il y avait des plans que je supportais plus, tu vois, parce que je me disais, mais c'est trop long, c'est horrible, il aurait fallu un insert, là, tu vois, truc, mais on l'avait pas, c'est comme ça. Donc, tu vois, c'est aussi, alors, c'est à la fois un choix artistique, parce que c'est ce que j'aime, et quand tu cites The Witch, oui, de quoi tu parles, je pense qu'il y a un retour à ça, qui intellectualise un peu le cinéma de genre. Mais je dirais que c'est pas que ça, c'est aussi parce que j'ai pas eu trop le choix. Donc, sachant que c'était comme ça que j'allais avoir peu de temps, dès le début, je me suis dit, on va faire quelque chose comme ça d'un peu, un peu contemplatif, un peu immersif, assumé, quoi.
Alors, Fabrice, tu viens de nous parler là du fait que aussi budgétairement le film avait des limites. Et dans les bonus, tu expliques, hein, d'ailleurs, que tu as dû faire l'impasse sur certaines parties du script. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Quand on n'a pas d'argent sur un film, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on manque de temps, puisque pour faire un film, il faut quand même louer du matériel, et plus tu vas le louer longtemps, plus ça va te coûter cher. Donc quand tu loues une caméra, du matériel d'éclairage et tout, en gros, chaque semaine de plus, ça te fait de l'argent qu'il faut sortir. Donc là, on avait 3 semaines pour tourner le film, parce que c'est tout ce qu'on pouvait s'offrir avec le peu d'argent qu'on avait. Voilà, et concrètement, l'écriture, sachant ça, il a fallu que je me restreigne. Il y a des séquences entières que j'avais écrites que j'ai arrêté d'écrire, si tu veux, enfin, ou j'ai arrêté de développer, parce que, et c'était notamment les scènes de dialogue, et ce qui fait que c'est surtout ça que j'ai coupé. Alors C'est assez frustrant, hein, parce que je trouve que ça apportait quand même plus d'épaisseur au personnage, mais en même temps, je me suis dit, je préfère quand même garder les séquences à effets spéciaux. Ça sera quand même plus intéressant, plus visuel. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut garder plus que le blabla. Et puis, il y a aussi sur le tournage, c'est-à-dire même malgré cette épure que j'avais faite, cette espèce de sélection de scènes, de séquences que j'avais faite à l'écriture, le jour du tournage, quand tu vois que tu dois tourner encore 20 plans et que c'est des plans de nuit et qu'il est 4h du matin et que tu vois le soleil qui commence, ou 5h du matin, le soleil qui commence à pointer son nez à l'horizon, tu dis merde. Et là, tu as le premier assistant qui te dit non, il va falloir, vas-y, il faut que tu déchires des pages entières, quoi. Et là, tu es obligé de faire un choix en l'espace de une minute, quoi. Et tu barres les trucs, tu dis bon, on va directement là. Ce qui fait qu'au final, j'ai parfois l'impression, c'est de ma frustration, mais c'est vrai pour tous les gens qui tournent sans argent et sans temps, avec peu de temps, c'est que tu as l'impression d'avoir au final un peu un squelette du film que tu avais en tête. Mais bon, voilà, le film existe quand même, mais c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà. Quand on se lance là-dedans, sans argent, sans temps, il faut vraiment prendre ça en considération en amont.
Et il y a autre chose aussi, moi, qui fait que pour moi, le film a une plus-value importante, c'est le travail. Alors, sur le son, alors que ce soit la musique, hein, la musique de Raphaël Guesca, qui est vraiment très belle. D'ailleurs, j'ai découvert dans les bonus qu'il travaillait sur ordi, j'étais très étonné. C'est étonnant, hein, ça m'a beaucoup étonné. Musique que tu doses très bien, hein, dans le film, qui n'est pas omniprésente, qui est là quand il faut. Et puis, il y a aussi un gros travail sur l'ambiance sonore. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu t'es énormément attelé, parce qu'il y a un gros boulot de post-prod, mais on sent, en regardant le film et en l'écoutant, qu'il y a un... L'ambiance sonore, c'est quelque chose qui compte énormément pour toi.
Je pense que c'est vraiment indispensable. C'est 50-50, hein, l'image et le son, surtout dans le film de genre. C'est-à-dire que tu peux complètement foutre en l'air des effets visuels si tu n'as pas le son adéquat, quoi. Et alors, la post-production a été très compliquée, parce qu'on était j'étais encore au Canada à l'époque, je venais en France, mais on est tombé en plein Covid, donc ça a pris des plombs, et puis les gens étaient plus dispo. Bon, bref, toujours pareil, sans argent, c'est compliqué. Mais on est tombé quand même sur Samuel, qui était notre mixeur, mais qui a aussi fait du montage son, qui nous a sauvé la mise. C'est-à-dire que moi, je lui ai fourni toute une série de sons, mais lui, il en a trouvé d'autres. Il a enrichi tout ça, et c'est indispensable, je pense. Donc ça, plus la musique de Raphaël, qui porte le film, hein. Pour moi, c'était dès le départ, hein, de toute façon, très important d'avoir cette musique qui comporte des thèmes aussi, hein, quelque chose qu'on fait de moins en moins, hein, dans la musique de film, je trouve, malheureusement, avec des thèmes par personnage, etc. Pour moi, c'était vraiment, mais comme je dis, 50% du film, c'est-à-dire que c'était très, très, très important. Mais depuis toujours, tu vois, je vais dire juste pour finir une petite anecdote, quand dans les années 80, j'avais pas d'enregistreur VHS, enfin, mes parents voulaient pas qu'on ait ça, parce qu'ils savaient très bien que je passais mon temps devant la télé s'ils achetaient ça. Et donc, quand j'étais ado, j'enregistrais le son des films, tu vois, avec un magnétophone audio, quoi. Et je me repassais ça. Donc, j'ai une partie de ma culture du film de genre qui était uniquement sonore. Et comme quoi, ça m'a forcément marqué. Et si tu veux, le son de ce genre de film, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres choses, mais notamment pour ces films-là, est tellement évocateur et tellement puissant, tu vois, que ça t'amène des images, quoi. Et moi, je sais que j'ai revu, entre guillemets, des films uniquement au son, tu vois, que j'avais vu une fois à la télé, mais que je me repassais en boucle. Je me suis réinventé les films visuellement sur la base du son. Donc oui, le son est très, très important. Et encore une fois, surtout quand tu fais du film d'horreur, du film fantastique. Parce que la chose derrière la porte, c'est vraiment un film fantastique à l'ancienne. C'est même pas vraiment de l'horreur. C'est un film fantastique. Donc, qui dit fantastique dit ambiance. Et le son, encore une fois, est primordial, quoi.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique français. Après ces échanges très intéressants avec Fabrice Blin, hein, donc le réalisateur de La Chose derrière la porte, disponible chez Extra Lucide Film, vous l'avez compris, un de nos coups de cœur, hein, on a bien aimé ce film qui, malgré son petit budget, arrive à produire de la belle image et une histoire assez émouvante, assez romantique et aussi très fantastique, évidemment. On va maintenant vous parler d'un film qui est un peu dans un autre esprit, mais qui s'inscrit lui aussi dans une tradition du fantastique français. C'est Celle qui parlait aux ruines, de Kenny Bernard. On peut le voir, ce court-métrage, sur YouTube, un court-métrage dans un noir et blanc très élégant, où en gros on a une sorte de représentation de la faucheuse, en tout cas de la mort, hein, qui est personnifiée à travers, esthétiquement un personnage, personnifié à travers un personnage, j'ai pas trouvé d'autre mot, désolé, avec un maquillage assez singulier, qui évoque d'ailleurs un peu aussi...
tout ça, ça évoque un peu le cinéma de Jean Rollin. Et on découvre que ce personnage échange avec des gens déjà morts qui sont en fait condamnés à rester à l'endroit où ils sont morts pour l'éternité, et c'est long l'éternité. Donc voilà le postulat de départ du film. Film dans un noir et blanc très élégant, film où le réalisateur fait preuve d'une grande maîtrise du cadre. Le film est assez court, hein, mais on voit une vraie personnalité se dessiner, et on va dire que Kenny Bernard est passé du côté, déjà, on sent qu'il y a une plus grande maîtrise dans son cinéma. On l'avait invité à l'époque, il se lançait, mais on sentait qu'il y avait une patte de metteur en scène dans ce qu'il faisait, qui était en train de s'affiner, même s'il n'y avait pas du tout d'argent. On sentait un vrai travail sur le cadre, sur le découpage, tout ça. Et là, on est bien au-delà encore de ce qui avait été fait lors de ses précédents cours. Donc, tout de suite, je vous propose d'en parler plutôt avec le réalisateur. Hein. Donc, Kenny Bernard, le réalisateur de Celle qui parlait aux ruines, au micro de Culture Prohibée.
J'ai voulu faire un film, d'abord, en hommage au cinéma fantastique des années 30-40, donc en noir et blanc. J'ai voulu vraiment, et c'était important pour moi, faire un court-métrage très, très atmosphérique. C'est-à-dire au niveau de l'image, mais aussi au niveau des lieux, puisque le tournage, donc, comme le titre l'indique, se passe essentiellement dans des vieilles ruines, donc que j'avais repérées au préalable. Et il faut savoir que ce qui m'inspire surtout pour écrire une histoire, un scénario, c'est il faut que je trouve un lieu particulier qui m'inspire particulièrement. Et les lieux où on a tourné là, j'avais très envie de raconter une histoire autour d'eux. Et donc, je me demandais qu'est-ce qu'on peut raconter qui se passerait dans ces ruines. Et c'est là que j'ai eu cette idée de fantômes, donc ces âmes des morts qui sont condamnées à rester sur les lieux de leur mort jusqu'à la fin des temps, quoi. Ce qui est une idée moins plaisante que celle d'un paradis, voilà, puisque là, comme par exemple, on a le premier fantôme du film, comme vous avez vu, il est condamné à rester seul, en fait, pour l'éternité. J'ai pensé que ça serait intéressant aussi de faire de la mort, qui est une figure généralement effrayante dans le cinéma, d'en faire un personnage qui soit plus, de la montrer sous un jour plus sympathique. Voilà, et d'en faire un petit peu ce personnage qui va rendre visite à ses anciens clients, on va dire, pour s'assurer de leur bien-être. Bon, même si le fait de mourir, c'est jamais très très drôle, donc il y a aussi un petit côté comédie quand même dans le film, parce que c'est toujours important de mettre un petit peu d'humour, mais là, ce qui m'intéressait sur ce film, c'était vraiment pas la comédie en premier lieu. Je voulais, en fait, ce qui était important vraiment, c'était de faire quelque chose de différent du film précédent.
Est-ce que vous envisagez, vous, d'aller le promener de festival en festival?
Ah, bien évidemment, c'est déjà fait. J'ai envoyé dans une vingtaine de festivals, pas seulement en France, mais aussi à l'international, où je pense que peut-être il y a aussi une sensibilité pour ce genre de film. Et alors, bien évidemment, je compte beaucoup sur lui, parce que c'est honnêtement de tous mes travaux jusqu'à présent, c'est celui dont je suis le plus fier. Ça, je peux le dire. En tout cas, c'est sûrement celui qui me ressemble le plus. C'est vraiment ce genre de film-là que j'ai envie de faire.
Alors, au niveau des influences de Celle qui parlait aux ruines, alors on peut y voir du Jean Rollin, moi j'aime beaucoup Jean Rollin, le septième saut de Bergman aussi, on peut y voir toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre, vous, en termes d'influence?
Je suis très heureux que vous ayez cité ces deux influences-là, donc Rollin et Bergman, puisque ce sont deux de mes influences majeures, vraiment. Peut-être aussi, mais c'est peut-être moins prépondérant, mais c'est aussi une influence, mine de rien, le cinéma japonais des années 50, un petit peu ce cinéma un peu contemplatif, comme Ozu.
Quels sont vos projets? Parce que là, après un cours comme ça, je pense qu'il y a d'autres projets qui doivent vous trotter dans la tête.
Bien sûr, ben déjà ce film-là, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de l'étirer sur un format plus long, par exemple. C'est une histoire qui me parle beaucoup, et je me demandais si à l'avenir je pourrais pas faire une version plus longue. Peut-être en mettant une histoire, une autre intrigue en parallèle à celle-là. Peut-être parce que je ne sais pas si ce seul sujet, ça suffirait pour meubler un film de long métrage. Mais c'est vrai que c'est l'histoire que j'aimerais réemployer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Après, j'ai d'autres idées en tête. Par exemple, moi, je suis de la région grenobloise. Et comme je vous ai dit, je suis très influencé par les lieux, par des décors particuliers. Et je sais qu'il y a des endroits sur Grenoble que j'aimerais beaucoup exploiter. Les vieux quartiers où il y a beaucoup... Il dégage une histoire, un vécu, tout ça. J'aimerais vraiment faire des intrigues autour de ça. J'avais, entre autres, j'aurais le projet, peut-être pas film, mais sous forme de petite série, une série à la Fantomas, mais pas les Fantomas avec De Funès, les premiers Fantomas de Louis Feuillade des années 10. Donc une série comme ça avec une organisation criminelle, alors avec un petit peu aux lisières du fantastique, voilà. Je pense aussi tourner en noir et blanc, et ce serait une de mes idées que j'ai en ce moment. Oui.
On rappelle que Celle qui parlait aux ruines est visible sur YouTube. Hein, il suffit de taper tout simplement Celle qui parlait aux ruines dans votre barre de recherche YouTube. Et puis que La chose derrière la porte est sortie dans un très beau Blu-ray, très bien illustré, avec énormément de bonus, plus de 2 heures de bonus chez Extra Lucide Film, le film de Fabrice Blin. Donc on vous conseille de visionner ces deux films fantastiques français, l'un court, l'autre long, car si vous êtes comme nous, vous y prendrez un grand plaisir. Pour rappel, La chose derrière la porte de Fabrice Blin sera diffusée le mardi 7 janvier à 20h à la salle Saint-Gobain de Tourotte, donc à l'espace culturel de Tourotte, et la projection aura lieu en présence du réalisateur Fabrice Blin, et ce sera votre serviteur qui animera la soirée. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission qui n'aurait pas été possible sans le concours de Damien Demey à la technique. Et puis évidemment, the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnin, chargé de l'architecture sonore de l'ensemble de l'émission. Salut les gens, à la prochaine.